Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Le problème, c'est quand vous multipliez les exceptions, on ne comprend plus la règle. Et c'est un peu le cas depuis le départ, quoi.
Sitôt décrété, sitôt annulé, moins d'une heure après son entrée en vigueur, le port du masque à vélo à Paris est passé d'obligatoire à non-obligatoire, laissant les Parisiens perplexes. Laisser ses coordonnées au restaurant au cas où son voisin de table s'avère positif au Covid, une technique de traçage que souhaitent pouvoir appliquer des restaurateurs, scepticisme des clients. Emmanuel Macron déplore une banalisation de la violence qui s'est durcie après le confinement. Le gouvernement, dit-il, sera intraitable. Le président de la République ciblé par Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, pointe le paradoxe d'un chef de l'État qui réclame des relocalisations, tout en restant, selon lui, muet face aux plans sociaux. Dans ce journal également, un braquage à 9 millions d'euros, un Tour de France méconnaissable à la veille de son départ, et Lyon de retour en Ligue 1 après l'épopée européenne. La météo de demain, très agitée, notamment sur tout le pourtour méditerranéen, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en baisse ce soir, moins 0,26% à 5000 points tout rond. Les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview Echo à 22h20. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jules Frutos, producteur de musique à la tête d'Alias Productions. 200 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement pour relancer le secteur. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus de 7300 cas de contamination au Covid-19 détectés ces dernières 24 heures. Progression exponentielle, alerte ce soir le ministère de la Santé. Après avoir baissé tout au long de l'été, le nombre de personnes admises en réanimation est reparti à la hausse. Voilà pourquoi de nombreuses mesures sanitaires sont annoncées un peu partout en France, avec parfois du flottement dans l'air, comme ce matin à Paris. La règle annoncée la veille était pourtant très claire, masque obligatoire pour tout le monde, sauf que dans les faits, il y a eu du cafouillage en haut lieu, Justin Morin.
Oui, même nos contacts presse habituels au sein de la mairie de Paris et de la préfecture ont eu du mal à suivre, c'est vous dire. Pourtant, au départ, c'était simple. Masque partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais ce matin, 8h42, soit 42 minutes après l'application de la règle, nouveau communiqué, c'est masque pour tout le monde, sauf pour ceux qui, je cite, « exercent une activité physique au titre de la course à pied » ou du vélo. Ensuite, les élus se sont aussi contredits sur la cigarette. L'adjointe à la santé a d'abord annoncé qu'il était interdit d'enlever le masque et donc de fumer dans l'espace public. Mais rapidement, un autre élu a rectifié. Bref, forcément, chez les Parisiens interviewés par Pierre Herbulot, on a du mal à suivre.
Le problème, c'est quand vous multipliez les exceptions, on ne comprend plus la règle. Et c'est un peu le cas depuis le départ, quoi.
C'est vrai que généraliser le port du masque, vu qu'il n'y a aucune étude, j'allais dire scientifique ou médicale, qui approuve, qui teste en fait que le masque peut être utile en extérieur, c'est vrai que c'est peut-être un peu débile, mais après si c'est une obligation on va le mettre.
Enfin, ce soir on peut le dire avec certitude, la règle à Paris est dans la première couronne, c'est le bon sens, c'est-à-dire masque partout, mais tolérance pour les deux roues et les joggeurs.
Alors c'est ce que vous venez de nous dire est valable pour Paris, mais pas forcément pour les autres villes où le masque est également obligatoire. Et ça c'est tout à fait normal, Justin, puisque ces décisions sont prises au niveau local.
Exactement, prenez Toulouse, le masque est obligatoire dans l'espace public depuis une semaine, sans dérogation pour le moment. Mais vu la situation, le préfet pourrait assouplir la règle. À Lille, où le masque doit être porté depuis le début du mois, la préfecture vient d'annoncer une tolérance pour les vélos et les trottinettes. Idem à Montpellier, à Marseille aussi. Demain, à partir de 8h, masque obligatoire à Strasbourg et dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. Enfin, à Bordeaux, la règle vaudra pour la majeure partie du centre-ville à partir de lundi.
Justin Morin. Et puis dans l'Hérault, cette fois, la préfecture annonce qu'il est désormais interdit de danser dans les lieux publics, les bars et restaurants. Restaurants où l'on pourrait bientôt devoir laisser nos coordonnées. Des restaurateurs plaident pour la mise en place de cette mesure de traçage que pratiquent déjà plusieurs de nos voisins. Ils proposent également de prendre la température à l'entrée. Hélène Terzian, est-ce que les clients que vous avez rencontrés sont prêts à jouer le jeu ?
À vrai dire, les clients sont assez partagés. Il y a d'abord ceux pour qui ces mesures sont beaucoup trop intrusives. Dimitri, par exemple, refusera catégoriquement de s'y soumettre.
C'est le parcours du combattant, oui. Donc, non, c'est trop. Pour un simple repas ou un simple café, c'est n'importe quoi. Voilà, déjà, il faut les masques, pas les masques. Mais si on ne peut plus aller manger au restaurant tranquille sans laisser son identité de partout, ça devient n'importe quoi.
Laissez ces coordonnées pour que l'on puisse vous recontacter en cas de contamination dans l'établissement. Se faire prendre la température à l'entrée, Joy estime au contraire que c'est une mesure très utile.
Si un tout petit peu de contrainte, ça peut protéger les personnes fragile, je pense que ça vaut la peine de le faire. Et on a déjà le droit d'y aller, enfin on n'est pas confiné, il ne faut pas oublier quand même, c'est comme si on avait oublié qu'il y a quelques mois on était enfermé chez soi et qu'on avait le droit à une sortie par jour.
Rassurer les clients et éviter une fermeture des établissements, c'est justement l'objectif du groupement national des indépendants hôtellerie, restauration et traiteurs qui plaide pour ces mesures qui ne seront pas contraignantes. Pourtant, dans les faits, les restaurateurs comme Sébastien que j'ai interrogé se voient mal appliquer ce dispositif.
On a déjà du mal à faire respecter le masque, ne serait-ce que pour que les clients qui rentrent et se promènent dans l'établissement. Si en plus on doit prendre la température, prendre leurs coordonnées, ça va être encore une autre paire de manches. Je pense que ça va faire beaucoup en fait. Je pense que c'est pas notre rôle de contrôler ça. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens et c'est à eux de faire le nécessaire et pas nous de faire la police encore une fois.
Sébastien est même catégorique, je perdrai moins d'argent en fermant mon restaurant plutôt que d'appliquer toutes ces contraintes qui me feront certainement perdre de nouveaux clients, affirme-t-il.
Reportage Europe 1 signé Hélène Terzian. Emmanuel Macron, qui suit très attentivement la situation sanitaire, a exprimé ce soir une autre inquiétude, celle de la banalisation de la violence. Le chef de l'État s'est confié cet après-midi devant la presse présidentielle. Jean-Rémy Baudot, vous y étiez pour Europe 1. Le président s'inquiète d'une société à fleur de peau, notamment depuis la levée du confinement.
Oui, Julien, la violence, c'est même un thème que le président a abordé plusieurs fois lors de son entretien avec les journalistes de la presse présidentielle cet après-midi. Emmanuel Macron a dénoncé une banalisation de la violence, surtout depuis le déconfinement, une violence qui, selon lui, débute souvent sur les réseaux sociaux avant de se cristalliser dans les actes. Faut-il y voir donc un ensauvagement, comme l'affirme son ministre de l'Intérieur ? Emmanuel Macron refuse ce terme, préfère parler de banalisation de la violence, explique en fait que la réponse passe par un long travail qui doit commencer dès l'école, mais que cela passe aussi par plus de moyens dans la police et dans la justice pour qu'elle soit notamment plus rapide. Il affirme avoir déjà commencé ce travail et plaide pour un nouveau patriotisme républicain, une notion encore un peu floue qu'il promet de développer le 4 septembre prochain lors des 150 ans de la proclamation de la République. Et quand j'ai demandé au président s'il redoutait un mouvement de violence sociale en cette rentrée, sur fond de crise économique et de crise sanitaire, il s'est montré plutôt philosophe. « Je ne fais pas de pronostic », a-t-il dit. « Je ne redoute rien ». Mais ne m'habitue pas, explique le président.
Jean-Rémy Baudot, ses propos font écho à la passe d'armes entre Gérald Darmanin et le maire écologiste de Grenoble. Éric Piolle a critiqué l'opération de police menée avant-hier dans l'un des quartiers de sa ville. Opération effectuée à la demande du ministre de l'Intérieur après la diffusion de vidéos montrant des dealers munis de fusils automatiques. Dans une lettre au Vitriol, Gérald Darmanin a accusé le maire de Grenoble d'un manque d'implication dans le domaine de la sécurité. Ne plus dépendre autant des autres, c'est l'autre message qu'a passé aujourd'hui Emmanuel Macron en visite ce matin dans un laboratoire pharmaceutique de banlieue parisienne. Le chef de l'État a indiqué que 15 des 100 milliards d'euros du plan de relance du gouvernement seront destinés à l'innovation et aux relocalisations, notamment dans la production de médicaments. Plan de relance dont 2 milliards seront consacrés à la culture. Le Premier ministre était ce soir au Festival du film francophone d'Angoulême. Jean Castex a annoncé une aide de 165 millions d'euros pour soutenir la création cinématographique. Le produit intérieur brut en France a chuté de 13,8% au deuxième trimestre en raison du confinement. C'est du jamais vu, explique l'INSEE. Le PIB avait déjà reculé de près de 6% sur les trois premiers mois de l'année, plongeant le pays en récession. Et c'est ce climat économique très difficile, que Jean-Luc Mélenchon est venu cet après-midi soutenir les salariés de Cargill à Haubourdin, dans le Nord. Durant la crise sanitaire, ils produisaient des poches de glucose pour les hôpitaux, mais ils sont aujourd'hui menacés par un plan de suppression d'emplois validé par le ministère du Travail. L'occasion pour le leader de la France insoumise de tacler la politique d'Emmanuel Macron qui, d'un côté, dit-il, prône les relocalisations, mais de l'autre, laisse faire ce genre de plan social.
D'aucuns parmi vous auront eu la vie sauve grâce au Cargill, parce que le produit qu'ils mettent à la disposition des hôpitaux et qui est considéré comme un médicament vous aura sauvé la vie. Et on leur a dit des belles paroles pour qu'ils travaillent. Et puis le lendemain, ça y est, c'est fini. Allez hop, on liquide tout, sans respect pour les gens. Alors, monsieur Macron, vous êtes si sûr que ça, que la deuxième vague ne va pas nécessiter de nouveau qu'on ait recours aux médicaments qui se fabriquent ici? Et qu'est-ce que vous faites, monsieur le président, aujourd'hui même, le kéké dans une boîte, dans une entreprise, et vous annoncez que vous allez donner des sous pour empêcher les délocalisations? Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, l'intérêt général du pays est engagé.
Jean-Luc Mélenchon, au micro européen de Lionel Gougelot. Le tarif du gaz réglementé appliqué par Engie va augmenter de 0,6% au 1er septembre, annonce de la Commission de régulation de l'énergie. Un fourgon blindé attaqué ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon. Il n'y a pas eu de blessés. Guillaume Bier, on connaît désormais le montant du butin, montant record.
9 millions d'euros, c'est effectivement le plus gros butin en argent liquide volé par des malfaiteurs depuis l'affaire Tony Musulin, ce convoyeur de fonds qui avait lui-même dérobé 11,6 millions. Là, on parle bien d'un braquage, c'était donc ce matin 8h55. Un fourgon blindé de la société Lomis sort tout juste d'une succursale de la Banque de France lorsqu'il est coincé, pris en étau entre deux utilitaires. Un commando d'au moins 5 hommes lourdement armés met en joue les convoyeurs et leur intime l'ordre d'ouvrir la porte du fourgon, ce qu'ils font. Les malfrats n'ont eu qu'à se servir des grands sacs remplis de billets, 9 millions d'euros volés avec sang-froid, sans violence, sans un coup de feu. Avant de s'enfuir, les braqueurs ont incendié leurs utilitaires et le fourgon Lomis. Ils sont partis à bord de deux voitures puissantes, retrouvées elles aussi brûlées quelques kilomètres plus loin. Attaque minutieusement préparée, même technique que les gangs spécialisés qui sévissaient il y a 15 ou 20 ans. Un braquage à l'ancienne, pourrait-on dire, sur lequel la BRB, la Brigade de répression du banditisme de la PJ lyonnaise, enquête actuellement.
Précision signée à Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Une attaque à l'explosif sur un distributeur de billets a fait une trentaine de blessés légers ce matin à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. L'explosion a éventré un magasin et projeté des débris sur une vingtaine de mètres. À l'étranger, le Premier ministre japonais annonce qu'il va démissionner à 65 ans. Shinzo Abe invoque des raisons de santé et a expliqué souffrir de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l'intestin. L'état d'Alexei Navalny s'améliore un peu. Le principal opposant russe au président Vladimir Poutine est hospitalisé à Berlin après avoir été victime d'un empoisonnement. Les médecins constatent certaines améliorations, mais ils précisent qu'il est toujours plongé dans un coma artificiel et reste sous assistance respiratoire. 28 août 1963, 28 août 2020, Washington retient son souffle au moment de célébrer le discours de Martin Luther King. « I have a dream » avait plusieurs fois répété le leader pour la lutte des droits civiques. Une date anniversaire qui intervient en pleine affaire Jacob Blake, cet afro-américain gravement blessé par un policier blanc. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus dans la capitale américaine.
Europe 1, Julien Pierce.
22h12 sur Europe 1, l'heure de prendre la direction de Nice, où sera lancé demain le Tour de France avec deux mois de retard, crise sanitaire oblige. L'épidémie et son récent rebond met la caravane sous tension. Le public sera constamment tenu à l'écart des coureurs. Du coup, au grand dam des organisateurs, l'aspect sportif passe un peu au second plan. Axel May, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous avez rencontré Christian Prudhomme, le directeur du Tour, cet après-midi.
Oui, les organisateurs du Tour aimeraient parler uniquement d'enjeux sportifs, de fêtes populaires, du passage de la caravane publicitaire. Mais voilà, lorsque l'on est dans une ville où tout le monde est censé porter le masque, les questions sanitaires dominent. Que faire si un coureur est testé positif, par exemple? Eh bien, il sera exclu. Deux coureurs en une semaine et c'est l'équipe entière qui rentrera chez elle. Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve, n'a lui-même pas accès aux équipes qui vivent isolées dans différents hôtels de Nice et de sa région en attendant le départ de la course.
Je ne suis pas dans la bulle des coureurs, donc je suis plus loin des coureurs. Mes bras d'orang-outan, je suis à distance. Donc les coureurs, je les ai aperçus hier. Je leur ai fait bonjour de loin, je ne suis pas allé discuter avec eux, ce que j'aurais fait évidemment les autres années. J'ai passé plus de temps avec le préfet et le maire de Nice ces derniers jours qu'avec les représentants des équipes, ça c'est certain.
Le préfet qui a donné des consignes pour limiter au maximum l'affluence du public. Alors, pour évoquer quand même l'aspect sportif, hein, deux équipes ont la faveur des pronostics. La formation britannique Ineos, avec dans ses rangs le vainqueur sortant, le jeune colombien Egan Bernal, et les néerlandais de Jumbo Visma, avec comme chef de file le slovène Primoz Roglic. Premier coup de pédale, demain à 14h.
Axel May qui va nous faire vivre ce Tour de France dès demain sur Europe 1 en compagnie de Marguerite Lefebvre. On termine avec le foot. 9 jours après la demi-finale perdue en Ligue des Champions face au Bayern, c'est la reprise ce soir du championnat pour l'Olympique Lyonnais. Les Rodaniens affrontent en ce moment Dijon. Maxime Choche, vous êtes au Groupama Stadium pour Europe 1 et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour l'OL qui mène 3-1.
Tout à fait, Julien, il y a 3-1, vous venez de le rappeler, pour l'Olympique Lyonnais. Une première mi-temps assez folle, avec énormément de situations de but côté lyonnais. 14 tirs, près de 60% de possession de balle, mais il a fallu attendre la 39e minute de jeu pour que l'OL égalise, enfin sur pénalty par Memphis Depay. Dijon avait ouvert le score contre le cours du jeu dès la 14e minute par Aurélien Schedler. Et après cette égalisation, la 39e minute par Depay, tout s'est accéléré et les Gones, poussés par leur public, ont de nouveau fait trembler fait les filets d'abord à la 45e, juste avant la mi-temps, sur un but contre son camp du défenseur dijonnais Wesley Lotoa. Et l'international néerlandais Memphis Depay, une minute plus tard, profitait d'un centre contré dans la surface dijonnaise pour porter le score à 3-1 après un joli numéro. Un score mérité au vu de la physionomie de cette première période, mais que ce fut dur pour les Lyonnais avec énormément d'occasions, comme je vous le disais, et très peu de réalisme. L'OL qui continue de pousser en ce sens depuis le retour des vestiaires avec déjà 4 occasions et un énorme manqué de Moussa Dembélé. Mais après 56 minutes de jeu, il y a 3-1 toujours pour l'Olympique Lyonnais face à Dijon.
Merci Maxime Choche en direct du Groupama Stadium à Lyon pour Europe 1. J'ajoute que Oussem Aouar, le néo-international français, ne joue pas ce match en raison d'une contamination au Covid-19. Il ne pourra pas donc rejoindre le groupe des Bleus. C'est l'ancien Lyonnais Nabil Fekir qui est convoqué à sa place. L'établissement français du sang a lancé aujourd'hui un appel d'urgence aux dons. Crise sanitaire, vacances et canicules ont découragé les donneurs cet été et les réserves sont très basses. La rentrée risque d'être critique. S'il n'y a pas un sursaut dès maintenant, s'alarme l'EFS. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire ce week-end. On passe à la météo de demain.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Vigilance orange pour pluie, inondations et orages en cours ce soir dans les Pyrénées-Orientales et Andorre. Anissa Haddadi, il va y avoir un vrai changement de temps ce week-end.
Oui, c'est vrai qu'on le ressent bien hein, là, Julien. Eh bien, ça va continuer ce week-end avec des conditions très automnales. Avec demain matin sur le quart sud-est, sur l'Aude, le Var, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Gard, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et la Corse. Dans tous ces départements, demain matin, vous allez vous réveiller avec des pluies soutenues, accompagnées de coups de tonnerre. Et attention, dans cette région, on attend quand même des cumuls de pluie assez importants. Partout ailleurs, le ciel va alterner entre nuages, éclaircies et averses. Et puis dans l'après-midi, vous le verrez, les averses vont devenir de plus en plus fréquentes, avec d'ailleurs sur les Pays de la Loire et la région parisienne des orages qui se développent dans l'après-midi. Sur les côtes de la Manche, sur la mer du Nord, en Bretagne et jusque sur les Pyrénées-Atlantiques, là c'est le vent du Nord qui se lève. Il souffle demain jusqu'à 60 km/h et les températures avec ce vent du Nord continuent donc de baisser. Nous aurons 9 degrés à Rennes, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris et jusqu'à 21 degrés, là c'est bien plus doux, à Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, demain, il fait frais à Saint-Brieuc avec 17 degrés, seulement 19 pour Belfort, Lille et Nantes, 20 degrés à Paris et Saint-Étienne, 22 pour Strasbourg et Lyon, 24 à Perpignan. Dans le sud, il fait toujours doux avec 25 à Marseille, 28 à Nice et 32 pour Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Ce soir, Emmanuel Duteil reçoit Jules Frutos, producteur de musique à la tête d'Alias Productions. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
À Wall Street, les indices restent au plus haut pour terminer la semaine.
Ouais, le Dow Jones gagne encore du terrain, plus 0,57%, 28 653 points. Et rien n'arrête le Nasdaq qui signe son quatrième record consécutif cette semaine. Il gagne encore 0,6%, 11 695 points. Les marchés profite comme hier de la nouvelle stratégie de la Fed. La réserve fédérale américaine prévoit d'être plus souple sur l'inflation, ce qui promet des taux bas pour encore très longtemps. Ça se calme un peu pour les géants de la tech qui ont beaucoup grimpé en début de semaine. Apple perd 0,2%. Amazon est stable. À noter tout de même le bond de 6% de Dell Technologies après un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. C'est grâce au succès de ses petits ordinateurs portables et à ses logiciels liés au travail. Même scénario pour HP qui monte de 6,2%. Le dollar recule ce soir, c'est donc du vert pour l'euro qui gagne 0,5% et qui s'échange contre 1,1885$.
Fin de semaine dans le rouge ce soir pour le marché parisien.
Oui, le CAC 40 perd 0,26% à 5002 points. On sauve les 5000 points ce soir grâce aux banques qui sont en nette hausse. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent plus de 3%. Sanofi, de son côté, recul de 1,3%. C'est aujourd'hui que le groupe pharmaceutique a lancé l'offre publique d'achat sur Principia Biopharma. Il s'agit d'une biotech américaine spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques.
Du rouge aussi pour Plastivaloir.
Oui, le fabricant de pièces en plastique a lui aussi souffert sur la période avril-juin de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires a été réduit de moitié sur un an, moins 1,6%. Donc ce soir, pour Plastivaloir. Les marchés terminent en baisse. Londres perd 0,6% et Francfort moins 0,5%. Milan est stable. Amsterdam perd 1%. L'exception, c'est Milan qui monte de 0,6%. Et à Paris, le CAC 40 perd 0,3% au terme d'une belle semaine tout de même, puisqu'il a gagné plus de 2% sur les 5 dernières séances. Il termine à 5002 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. 22h40 sur Europe 1. 22h40, oui. Non, 22h20, j'ai la berlue. On passe à l'interview écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Jules Frutos, producteur de musique à la tête d'Alias Productions.
Bonsoir Jules Frutos.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des gros producteurs de spectacles de France. Vous êtes à la tête d'Alias Productions. Vous avez plus de 300 artistes dans votre catalogue. Et ça fait rêver quand on cite tous ces noms, puisque vous avez organisé les premières tournées françaises de The Cure, des Clash ou encore de Lou Reed. Le gouvernement vient d'annoncer 200 millions d'euros d'aide pour la filière musicale. Ma première question va être très directe. Ça vous sauve ou pas ?
Alors, oui, en partie, si ces 200 millions sont effectivement à 100% consacrés au spectacle privé, hein. On n'a pas tout gagné encore, on a gagné une première partie. Hein.
Vous demandiez un petit peu plus, vous. Je crois que vous demandiez 300 millions d'euros, mais est-ce qu'avec ces 200 millions, on arrive au moins à éviter des faillites ?
Bah écoutez, pour être très clair, le chiffre fait suite à une étude EY, qui est une étude très très sérieuse et qui portait à 250 ou 300 approximativement la perte du secteur au 31 décembre 2020. Aujourd'hui, on sait très bien que 21 ne sera pas la reprise, ou en tout cas en partie, elle ne sera pas réellement là à 100%. Donc oui, ça aide, oui, c'est très important, oui, ça peut sauver un certain nombre d'entreprises et on espère le plus possible.
Quand vous dites 21, c'est bien évidemment 2021 et c'est vrai qu'il y a énormément d'inquiétudes à venir, notamment à cause des jauges qui ont été mises en place. Je rappelle, il ne peut pas y avoir de spectacle de plus de 5000 personnes dans les zones rouges, c'est-à-dire dans ces 21 départements rouges pour le moment. En plus, dans ces départements, il faut une distanciation sociale assez sévère au sein des salles de spectacle. C'est un petit peu plus facile dans les zones vertes. Mais enfin, bon, vu qu'on ne sait jamais comment les départements vont être dans les semaines à venir, j'imagine que pour vous, c'est tout simplement impossible de mettre en place des tournées en ce moment.
Oui, voilà, il faut se rendre compte à l'évidence. C'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir un fonds et de l'argent pour la sauvegarde de nos entreprises, parce que c'est un problème sanitaire. On ne peut pas exiger une date précise à partir de laquelle tout ira bien, à part peut-être le vaccin dans quelques temps. À part ça, sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait reprendre normalement les concerts. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les jauges assises sont possibles jusqu'à un certain nombre de personnes, mais on ne peut pas. Déjà, les spectacles de septembre, octobre, novembre sont pour la plupart des spectacles qui ont été reportés du mois de mars ou du mois d'avril. Et puis, ils sont là en fonction de billets qui sont vendus, de jauges qui sont nouvelles, puisqu'il y a la distanciation, encore à ce jour, parce que ce n'est pas possible autrement. Donc, on ne voit pas comment la grosse partie des spectacles, si le virus continue et c'est ce qu'il fait, ne serait pas annulé dans les mois à venir.
De façon très concrète, Jules Frutos, pour le moment, vous ne prévoyez rien ?
On prévoit des annulations.
Mais en tout cas, aucune tournée.
Ben, c'est difficile aujourd'hui, c'est impossible de s'engager sur le dernier trimestre 2020. Et comme je disais, c'est de report. Donc, voilà.
Et en plus, j'imagine que vous ne trouvez pas un seul assureur qui accepte d'assurer la tournée en raison du risque de pandémie, j'imagine en tout cas.
Ça, c'est plutôt drôle. Ça, j'avoue que... oui, la réponse, vous la connaissez fort bien. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il a déjà un certain nombre de problèmes avec pas mal de compagnies sur l'état des fêtes de la situation. Et bien sûr, là, rien n'est assurable.
Enfin, je disais, vous avez Vous avez l'un des plus beaux catalogues de France. Je citais les premières tournées de groupes américains mythiques que vous avez fait tourner, The Cure, Les Clash ou d'autres. Qu'est-ce que vous disent vos artistes internationaux? Est-ce que, vu de leur pays, ils disent dans tous les cas, la France est un pays trop dangereux, on ne veut pas venir?
Alors, le raisonnement des artistes internationaux est plutôt porté sur l'Europe en ce qui concerne les Américains que exclusivement la France. Donc, c'est des tournées qui s'engagent pour plusieurs mois en Europe. Et à ce jour, très clairement, les artistes américains ont décidé de considérer de revenir en Europe au plus tôt à la fin de l'été 2021, mais plutôt à la fin de l'année 2021, voire 2022 pour certains d'entre eux. Ils jouent totalement la sécurité, c'est-à-dire, je pense, le non pas l'apaisement, mais le virus.
De ce que je comprends, les 200 millions d'euros, ça va à peu près venir éponger les pertes là qui se passent en ce moment, mais il va vous en falloir beaucoup plus pour tenir jusqu'à fin 2021.
Oui, voilà, il va y avoir le problème de cette reprise début 21 ou en 21, et ça, on verra quand est-ce que c'est. Et puis un problème de relance également de notre secteur. Donc, c'est un premier pas très important. Si la situation perdure en 2021, c'est pas suffisant.
Il y a quelques semaines, le ministère de la Culture vous a demandé de vous réinventer. Vous avez compris ce que ça voulait dire?
Je crois que... je pense que cet usage des mots est une sorte de jeu maintenant qui n'est pas très très intéressant. On a des remises en cause fondamentales. Je ne sais pas si la réinvention en fait partie, mais c'est vrai que la situation pour le secteur, mais aussi pour tous les secteurs économiques et pour les gens et pour leur vie de tous les jours, a provoqué quand même, parce que c'est l'inconnu total et parce que ça a été géré avec une peur, ça a provoqué une peur réelle. C'est très très compliqué. Pour en revenir à donc la réinvention, voilà, on va passer là-dessus. Il faut plutôt que le public retrouve confiance, retrouve l'envie de vivre ce moment un peu particulier. C'est pas un bien de consommation normale, c'est vraiment un rendez-vous, un concert, un spectacle. Et il faut que le désir soit là.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère que tout cela va pouvoir quand même revenir un petit peu à la normale dans les mois à venir. Un grand merci, Jules Frutos, à la tête d'Aliès Productions, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite. 22h passées de 28 minutes et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Tour de France, on roule sur la tête, titre en une, Libération. La grande boucle, vous le savez, s'élance demain de Nice dans une atmosphère surréaliste, écrit Le Quotidien. Caravane réduite, spectateurs tenus à l'écart, coureurs dans une bulle sanitaire. Et cette question que pose Paul Quignot dans son édito. Vous êtes sûr, bien sûr, que c'est le Tour de France qui va s'élancer? Même les coureurs sont sceptiques, écrit-il. On a peur que ça s'arrête, mais on a aussi peur que ça démarre, témoigne l'un d'entre eux. Un autre ajoute, je ne sais pas si la France se rend compte du spectacle qu'elle va donner. Mais qu'est-ce qu'un spectacle sans spectateurs, s'interroge l'éditorialiste qui conclut ainsi. Que ce soit en sport, que ce soit au travail ou dans nos relations sociales, ce virus est devenu l'accélérateur d'une virtualité déjà en marche. Même tonalité dans l'édito d'Isabelle Bollen dans l'Alsace. Comme elles sont désolantes, ces images de paravent noir déployées à Nice pour cacher aux spectateurs la cérémonie de présentation des coureurs. Les Niçois, écrit-elle, apprécieront d'avoir déboursé 2 millions d'euros pour accueillir le Tour dans leur ville, sans même pouvoir capter au passage la moindre image des stars du vélo. La droite à la recherche du bon candidat pour 2022, titre pour sa part Le Figaro. Les ambitions fleurissent chez les ténors de la droite qui défient Macron sur l'insécurité. Valérie Pécresse juge ainsi que la République est menacée par de nouveaux barbares. On termine avec Ouest France qui se félicite d'un été meilleur que prévu. Peu d'étrangers certes sont venus en vacances chez nous, mais les Français, eux, ont été au rendez-vous, écrit Le Quotidien de l'Ouest. Du coup, la fréquentation touristique a été par endroits supérieure aux attentes. Voilà donc ce que vous pourrez lire demain dans vos journaux. Et juste avant de retrouver Sabine Marin et sa libre antenne, allons au Groupama Stadium où l'Olympique Lyonnais affronte Dijon. Reprise de la Ligue 1 pour l'OL qui se passe pour l'instant très bien, Maxime Choche.
Tout à fait, Julien. On joue la 71e minute et ça fait 4-1 pour l'Olympique Lyonnais face à Dijon. L'OL qui poursuit sa large domination dans ce deuxième acte après une première mi-temps à sens unique. Mais pourtant, c'était les Dijonnais qui avaient mené au score grâce à Schädler qui avait marqué à la 14e minute contre le cours du jeu. Il a fallu attendre la 39e minute pour que les Lyonnais égalisent sur pénalty grâce à Memphis Depay. Des Lyonnais qui ont marqué 2 buts juste avant la mi-temps. Un but contre son camp du Dijonnais, l'Ottawa, et puis Memphis Depay à la 46e minute. L'inévitable capitaine de l'OL, Memphis, qui a porté son total de buts à 3 buts ce soir à la 66e minute. De nouveau sur pénalty, il vient de céder sa place à Ryan Cherki, et donc à la 72e minute. Il y a 4-1 pour l'OL qui déroule face à Dijon.
Merci beaucoup Maxime Choche en direct du groupe Abba Stadium à Lyon. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, je vous remercie et je vous attends dans une petite demi-heure maintenant pour les prochaines infos.
Et on attend aussi les appels des auditeurs qui peuvent vous joindre à tout moment au 39 21.
Tout à fait, à tout à l'heure.